Quand on voit que les gens galèrent avec les salaires qu'on a, qu'est-ce que ça va être qu'on va être à la retraite?
Ce qu'on déplore depuis des années, c'est le manque d'effectifs.
Je les suis, les filles, je trouve extraordinaire ce qu'elles font.
Ça fait comme si on envoyait des tas de petites bulles de musique un peu partout dans les cellules.
Une salle pour juste où on se pose l'hiver, au chaud.
Il faut des endroits et des structures adaptées pour récupérer les abîmés de la vie qu'on est.
À vous, les Burgiens.
Inès Lombarté, Audrey Radondi.
Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Audrey.
Bonjour Inès, bonjour à tous.
La réalisatrice burgienne Charlène Favier est dans notre studio. Elle vient nous parler de son nouveau film Slalom. Il est projeté mardi soir en avant-première au cinéma La Grenette. C'est son premier long métrage et il fait partie de la sélection officielle Cannes 2020.
La Grenette, le cinéma art et essai de Bourg, rouvrira à cette occasion après des mois de fermeture. Situation sanitaire oblige. Mais d'ailleurs, les spectateurs ont-ils retrouvé le chemin des salles? On fait le point.
Le festival du film d'animation pour la jeunesse de Bourg-en-Bresse, c'est du 17 au 21 octobre. Reportage en immersion dans la création d'un court-métrage avec Éric Poncé, bénévole.
Bourg, en bref.
Et on commence tout de suite avec l'actualité.
Découvrir 10 métiers de l'artisanat pendant toute l'année. Il reste encore 5 places pour s'initier à la vannerie, la menuiserie ou encore l'électricité grâce à des bénévoles passionnés. L'éveil au métier de lin est proposé par la Chambre des métiers. C'est ouvert aux jeunes entre 10 et 15 ans et ça se passe tous les mercredis après-midi.
Les dimanches en famille de retour à Carédo, c'est toujours un dimanche par mois et ça commence le 18 octobre. Entrée gratuite pour les enfants de moins de 11 ans, accompagnés obligatoirement par un parent. Des stages pour les enfants à partir de 6 ans seront aussi proposés dans les vacances d'octobre.
Une bonne nouvelle pour le tourisme dans l'Ain, le guide touristique du Routard va éditer un guide sur notre département. Il sera publié l'année prochaine.
Octobre Rose démarre ce mois et dédié à la lutte contre le cancer du sein.
Pour l'occasion, une course de 5 à 15 km est organisée par la Ligue contre le cancer et l'Entente athlétique Bressane. Ce sera le dimanche 18 octobre à Bouvant. Pour l'inscription, c'est sur le site www.laburgienne.com. Une participation de 10 euros est demandée. Les bénéfices sont versés à 3 associations de lutte contre le cancer du sein.
Donnez votre avis sur le parc de la Madeleine. La consultation publique continue jusqu'au 23 octobre. Vous pouvez remplir un questionnaire sur le site bourg-en-bresse.fr. Autour du parc, on trouvera aussi un projet immobilier réalisé par le groupe Cardinal. Le bâtiment Saint-Joseph va être démoli, faute de réhabilitation possible. Claudie Saint-André, élue en charge de l'urbanisme à la mairie, nous explique l'objectif du projet.
La Madeleine, elle est construite tout autour d'un parc. C'est le principe, puisque c'était un hôpital psychiatrique de femmes et que les bâtiments faisaient barrière avec l'extérieur. Le principe, on le garde, des bâtiments qui font barrière avec l'extérieur, mais avec la volonté d'une ouverture avec un parvis, mais également la préservation des espaces paysagers qui sont présents. On est dans le projet d'urbanisme qui fait le lien avec entre la gare et Amiot, hein, donc la continuité, la linéarité, avec le besoin et l'objectif de venir réanimer le haut de la ville. Ce qu'on a fait depuis quelques années maintenant, un mandat et demi, l'étude patrimoniale, la recherche du besoin, en fait, voilà. Et puis après, on a lancé un appel à projet sur le Saint-Joseph pour savoir ce qui était potentiellement possible de faire. Voilà, donc il sera démoli normalement en janvier. On doit pouvoir démarrer cette construction donc avec le groupe Cardinal, qui sera à la fois le constructeur, promoteur, mais aussi le gestionnaire. Il faut avoir, je pense, l'ambition d'oser des constructions modernes qui soient différentes de ce que l'on peut voir aujourd'hui dans les villes moyennes où on a plus souvent une architecture plus conventionnelle. On trouve ce type de bâtiment dans des quartiers en développement comme Confluence par exemple. Il faut oser des architectures avec des signatures intéressantes pour marquer un territoire, pour marquer architecturalement des espaces qu'on n'a pas aujourd'hui.
Célia Barthélémy est directrice montage du groupe Cardinal. Elle nous dévoile ce que ce nouveau bâtiment va contenir.
Nous, on a un projet unique, un seul bâtiment avec une architecture moderne, contemporaine, mais qui va cacher en fait plusieurs usages différents intérieurs, puisqu'on a une mixité de fonctions. D'abord, une résidence du savoir, donc qui est à destination d'étudiants, de jeunes actifs et de la colocation. Un espace tertiaire au premier étage et des espaces commerciaux au rez-de-chaussée. Parce que l'idée, c'était d'avoir un socle commercial actif, dynamique pour l'opération. Donc voilà, c'est un seul et même bâtiment avec une architecture remarquable, avec une résille en double peau blanche un peu évanescente, avec plusieurs usages intérieurs.
Les travaux débuteront fin 2021 pour se terminer en 2023. Et un autre projet d'urbanisme du groupe Vinci, cette fois, est en cours aussi à la Vinaigrerie, vers la Tannerie. Un parc et deux résidences doivent y voir le jour, dont une pour les seniors. Les travaux vont commencer en novembre 2020 et se poursuivront jusqu'en 2022. Nous y reviendrons dans une prochaine émission.
Deux communes de l'Ain ont enfin élu leur maire, Abulas et Perron. Les deux maires sortants ont été réélus dimanche dernier. Du côté de Pondin, deuxième tour dimanche prochain, le 11 octobre.
Deux minutes, une actu.
Le cinéma La Grenette rouvre ses portes mardi soir. L'Amphi a retrouvé ses spectateurs fin juin. Des spectateurs pas assez nombreux, Audrey.
On crie au secours. L'appel à l'aide vient de Christophe Bernard, directeur des cinémas L'Amphi et La Grenette à Bourg-en-Bresse. Depuis la réouverture, les recettes du multiplex sont bien en dessous du seuil de rentabilité. 70% de la clientèle manque. Moins de spectateurs et surtout moins de spectateurs qui achètent des pop-corn et autres friandises. C'est la recette principale des cinémas. Ces derniers ne touchent que 30% du prix des tickets.
Les spectateurs boudent les salles avec la crise sanitaire.
Eh bien, le directeur des salles burgiennes en est persuadé. Certains sont craintifs, même si un protocole solide est en place. La capacité des salles est réduite, il y a du gel partout et le port du masque est obligatoire dans tout le cinéma, séance comprise. Des mesures bien présentes, mais ce qui manque surtout, ce sont les blockbusters, les super productions américaines prisées par le jeune public consommateur de friandises. Christophe Bernard le précise, oui, il y a de bons films français, mais ils ne suffisent pas. Et pour cause, les films américains représentent la moitié des recettes de l'Amphi. Les films américains ne manquent pas, mais les distributeurs outre-Atlantique préfèrent repousser leur sortie. Ils sont un peu plus frileux avec l'expérience Tenet, le film du réalisateur Christopher Nolan. Après une sortie mondiale dans 70 pays, les recettes n'ont pas atteint le niveau espéré. Le directeur de l'Amphi et de la Grenette comptait aussi sur la sortie du nouveau James Bond, No Time to Die. Mais prévu pour novembre prochain, la sortie est repoussée à avril 2021 et c'est déjà la deuxième fois.
Et quelles sont les conséquences du confinement ?
On le sait, les salles de cinéma étaient fermées, mais pendant ce temps, les plateformes pour voir des films et des séries en ligne ont profité de l'occasion pour diffuser des œuvres destinées au grand écran. Christophe Bernard donne l'exemple du film Mulan, prévu pour la fin mars, et qui devait sortir en salle pendant l'été, et finalement diffusé sur la plateforme Disney+, le plus grand distributeur mondial. Le directeur de l'Amphi précise, je le cite, « Si on sort un film en même temps que sur les plateformes, on est mort ». Selon lui, beaucoup de cinémas vont fermer. Les plateformes ont percé pendant le confinement.
Et est-ce que l'Amphi et la Grenette sont menacées ?
Alors le directeur veut rester optimiste, mais il attend avec impatience les vacances d'octobre pour prendre la température. Le mois de septembre étant toujours creux, la météo fait aussi la pluie et le beau temps des cinémas. Un dimanche pluvieux à l'Amphi, il peut y avoir jusqu'au moins 2500 personnes. Dimanche dernier, c'est monté à 1000. Une bonne moyenne face à la fréquentation en semaine qui tourne en ce moment autour de 200 spectateurs par jour. Christophe Bernard attend des aides de l'État promises par la ministre de la Culture. Pour l'instant, il bénéficie toujours du chômage partiel. L'Amphi tourne avec 3 personnes au lieu de 7. Tout est fait pour qu'elle fasse à peu près le même nombre d'heures. Le directeur ne prévoit pas de licenciement pour l'instant. La trésorerie paye les salaires et les charges. Mais jusqu'à quand ? Résultat, il y a moins de séances en semaine. À l'Amphi, et ce sera la même chose à la Grenette, la séance de 21h est supprimée. Et le cinéma Place de la Comédie sera fermé le lundi et le jeudi.
L'invité de Radio B.
Bonjour Charlène Favier.
Bonjour.
Vous êtes réalisatrice, vous sortez votre long métrage Slalom ce mardi au cinéma La Grenette. Alors en réaction à ce papier, de votre côté, quelles ont été les conséquences de cette crise sur votre travail ?
Alors moi, les conséquences... Alors déjà, il n'y a pas eu de vrai festival de Cannes au mois de mai. Donc c'est pour ça qu'on a appris finalement les sélections au mois de juin et qu'on a eu ce label Cannes. Ensuite, finalement, les salles ont quand même réouvert parce qu'on a eu la chance de pouvoir présenter le film à Angers, puis à La Rochelle pour les grandes rencontres de l'AFKE. Puis surtout à Angoulême, là ça a été quand même la grande fête du cinéma, on s'est tous retrouvés, donc il y avait quand même beaucoup de public, tout le monde garde le masque, mais on était ravis de retrouver, les salles étaient pleines, enfin avec les demi-jauges, et puis Deauville, salle de 1500 personnes, remplie à 1300 personnes, mais c'était quand même magnifique, donc finalement... J'ai l'impression qu'il faut continuer à vivre et que les gens continuent d'aller au cinéma. Moi, j'ai beaucoup d'échos. Je suis les entrées de tous les films français du moment parce qu'on se soutient tous, les réalisateurs, les distributeurs et tout ça. Et c'est loin d'être catastrophique. Donc, les gens vont quand même en salle et je trouve que c'est super. Et il faut continuer. Il faut que ça continue.
Charlène Favier, vous venez de Bourg-en-Bresse. Racontez-nous un peu votre enfance ici.
Alors mon enfance ici, alors oui, moi je suis née à Lyon, même si j'ai jamais vécu à Lyon, et puis j'ai vécu à Rovona, dans un petit village où vit toujours ma maman. J'étais au lycée kiné, où j'étais en option théâtre, histoire de l'art. Voilà, ma grand-mère est une burgienne pure et dure, commerçante, burgienne. Moi j'allais beaucoup à la rivière d'Ain quand j'étais petite, et donc c'est super important pour moi de revenir ici. Présenter le film au cinémateur à la Grenette qui m'a soutenue, qui a diffusé tous mes courts-métrages. Enfin voilà, j'ai. Et puis même la mairie, Jean-Paul Rodet, Guillaume Lacroix m'ont toujours soutenue au tout début. Donc c'est super important de revenir ici pour dire merci à tous ceux qui, dès le départ, étaient là pour me soutenir.
Donc déjà, vos études qui penchaient vers le cinéma, votre envie de devenir réalisatrice est venue tôt ?
Alors en fait, finalement, non, mes études, elles ne penchaient pas vers le cinéma, c'était plutôt l'histoire de l'art et le théâtre. Moi, je n'ai jamais pensé à devenir réalisatrice. Franchement, c'était quelque chose, je ne m'autorisais même pas à imaginer que c'était possible. Je ne savais même pas que c'était un métier, je crois, à l'époque, quand j'étais petite. Par contre, j'avais très envie de jouer, donc c'est plutôt le théâtre. J'avais fait la rencontre d'Aurélie Marpeau, justement à Kiné. J'ai fait une école de théâtre. Elle m'a un peu aiguillée sur une école de théâtre à Londres. J'étais plutôt partie pour le théâtre. Et puis finalement, après, j'ai un peu laissé tomber le théâtre. Et puis c'est le cinéma qui m'a trouvée. Un peu par hasard, j'avais besoin de filmer, j'ai beaucoup voyagé, j'avais besoin de filmer, de ramener un témoignage visuel finalement de ce que je vivais. Et c'est de là qu'est née mon envie de faire du cinéma. Donc plus tard, vers 23 ans. Et ensuite, après toutes ces années de voyage, que j'ai beaucoup voyagé, 18 à 25 ans, je suis rentrée à Bourg-en-Bresse et j'ai créé ma société de production, Charlibus Productions, qui est à deux pas, rue du Stand, avec mon associé Didier Balivet qui est toujours là, et c'est d'ailleurs nous qui avons coproduit le long métrage 10 ans pile. On s'est créé le 10 juin donc 2010 et on a appris la sélection officielle de Cannes de slalom le 10 juin 2020. C'était faux.
Ça, le hasard fait bien les choses.
Ouais.
Donc vous avez créé votre société de production à Bourg, donc vous gardez toujours un œil dans la cité burgienne.
Oui, alors j'y suis moins, mais notre société est toujours à Bourg, ce qui nous empêche pas du tout de faire du cinéma, ce qui nous permet d'avoir un ancrage fort dans la région Rhône-Alpes, ce qui est important. Slalom là, est coproduit par Rhône-Alpes Cinéma, et ils me connaissent, ils m'ont vu débarquer il y a 10 ans avec mes petits films, donc voilà, c'était important quand même de... Je trouve d'avoir un ancrage en Rhône-Alpes et puis tant qu'à faire Bourg-en-Bresse, que je pense que après si on est mobile et si on a des idées, l'endroit où on est finalement a pas beaucoup d'importance. Enfin, a beaucoup d'importance pour l'histoire finalement, mais pas beaucoup d'importance pour ce qu'on peut faire. On peut tout faire, quoi.
Et vous revenez souvent ici à Bourg voir votre famille un peu ?
Pas très très souvent parce que j'ai de moins en moins de temps, mais voilà, des occasions comme ça pour présenter mon film, j'étais. À midi, j'ai mangé au français avec ma grand-mère. Voilà, c'est l'occasion.
Donc justement, on va en parler de ce nouveau film Slalom. Tout d'abord, on va écouter la bande-annonce.
Lise Lopez, 15 ans, 1m60. Il va falloir que tu t'accroches. Personne ne va te faire de cadeau ici.
À partir de demain, c'est 10 heures de sport par semaine. En plus des cours et des entraînements le week-end.
Hop, 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 hop. Tu donnes tout, là ?
Non, je regarde un peu. Je t'ai laissé 20 messages au moins cette semaine. Je rentre, je suis crevée, je m'écroule.
Vois le mec derrière toi, c'est le coach de l'équipe de France. Et il pense que t'as rien à foutre ici.
Il est toujours comme ça, Fred. Avec lui, c'est plus il te casse, plus tu l'écoutes, et plus tu l'écoutes, meilleur tu deviens.
Je veux savoir ce que t'as dans le ventre, là, hein. Tu vois, je te l'avais dit, hein, travail paye.
Une fusée. Championne de France.
Hé, hey, tu te relèves, on dirait une gamine, là.
Bon, alors, comment ça se passe, l'entraînement?
C'est la chouchoute, alors bon.
Qu'est-ce que tu fais? Si c'était Fred, tu dirais quoi?
Tu vois pas qu'il nous regarde, là? Il a parlé à quelqu'un.
Qu'est-ce qui s'est passé? Tu sais de quoi je parle?
On vient d'écouter la bande-annonce de votre film Slalom. Est-ce que vous pouvez nous résumer en quelques mots l'intrigue ?
Alors, l'intrigue est très simple. En fait, c'est l'histoire de Lise, donc une jeune adolescente de 15 ans qui va rentrer dans une section ski-études, donc sport-études privée, et qui va peu à peu tomber sous l'emprise de son entraîneur, Fred, voilà, qui est joué par Jérémy Régnier. Et donc Lise, la jeune adolescente de 15 ans, est jouée par Noé Habitat.
Pourquoi vous êtes passé donc de Bourg à Bourg-Saint-Maurice? Vous avez décidé d'aller dans le milieu du ski. Pourquoi ce choix?
Alors, en fait, ce que j'ai pas tout dit tout à l'heure dans mon enfance, c'est que donc, j'ai grandi à Bourg-en-Bresse, mais j'ai aussi grandi à Val d'Isère. Parce qu'en fait, mes parents avaient un travail saisonnier, entre guillemets. Donc, je faisais 2 trimestres d'école à Val d'Isère, 1 trimestre d'école à Bourg-en-Bresse. Enfin, ça, sur les... toute la maternelle jusqu'au CM2 et ensuite le lycée, voilà, j'ai décidé de venir à temps plein à Bourg-en-Bresse, mais j'ai moi-même fait du ski de compétition, alors pas un haut niveau, pas aussi haut niveau que Lise, mais quand même j'étais au club des sports, donc je fais beaucoup de compétitions, beaucoup d'entraînements, voilà, donc je connais très très bien ce milieu, et Val d'Isère, les Arctines, c'est des stations que je connais très bien. Val d'Isère, j'y ai quand même grandi, j'ai passé presque plus de temps qu'à Bourg quand j'étais petite. Donc c'était hyper important de filmer ces montagnes. Enfin, j'avais plein de choses à raconter visuellement. J'avais envie de montrer la cinégénie de ces montagnes. Enfin voilà, c'était un peu une évidence pour moi de faire ce premier film là-bas.
Slalom, c'est votre premier long métrage, diffusé donc mardi 6 octobre en avant-première à la Grenette à Bourg. Il a été sélectionné au Festival de Cannes 2020. Il a reçu un prix au Festival de Deauville. Comment vous avez vécu ces annonces?
Ah ben, super bien, c'est-à-dire que Cannes, je n'imaginais même pas pouvoir être en sélection à Cannes, même si évidemment, quand on a fait le film, moi et toute mon équipe, on a mis tout notre cœur et nos tripes dans ce projet, donc on essaie de faire du mieux qu'on pouvait, mais c'est vrai que la sélection à Cannes, c'est un peu la récompense pour un premier film, c'est juste génial. Là, Thierry Frémaux et toute son équipe, ils m'ont fait un cadeau... magnifique. Ensuite, le prix d'Ornano Valenti, ben, on passe après Les Misérables, donc c'est quand même aussi un super signal. C'était magnifique de voir ce film projeté devant 1500 personnes. C'est un prix en plus franco-américain, remis par la presse américaine, donc c'était très important aussi de... C'est-à-dire que c'est un message qui montre que notre sujet est universel, quoi. C'est un film qui dénonce les abus sexuels dans le sport, donc le fait qu'il y ait aussi un petit signal comme ça qui vienne des États-Unis, c'était super. On a eu aussi un prix à Deauville, un prix aux Pays-Bas, donc prix de la jeunesse à chaque fois à Deauville et aux Pays-Bas, à Angoulême et aux Pays-Bas, et ça c'est super aussi que la jeunesse comprenne ce film. Enfin voilà, donc c'est des signaux, c'est super encourageant. Je suis ravie et très fière de mon équipe et de mes comédiens. Et
donc on va revenir sur les abus tout à l'heure dans le sport. Pour le moment, on va se parler un peu des acteurs que vous avez choisis. Donc la jeune fille de 15 ans, comme vous l'avez dit, Lise, est jouée par Noé Habitat, qui a aussi été à l'affiche du film Ava. Jérémy Régnier dans le rôle de l'entraîneur, qui avait pris l'apparence de Claude François dans le film Clo-Clo. Comment vous les avez choisis, ces acteurs?
Alors Noé, je l'avais donc justement vu dans Ava à Cannes en 2017. Tout de suite, j'avais senti qu'elle avait une certaine animalité, un côté très instinctif qui me plaît, qui est très important pour moi, parce que j'ai ce rapport-là à la mise en scène. J'ai un rapport animal, instinctif, j'intellectualise pas vraiment les choses, et donc j'ai besoin de trouver cette sororité avec les comédiens. Et puis on a fait un court-métrage pendant que j'étais en train d'écrire Slalom en 2017, justement. J'ai tourné un court-métrage qui s'appelle Odolgori, qui parlait du consentement cette fois, donc il y avait quand même des points communs avec Slalom, même si c'était pas la même histoire. Et donc j'ai tourné ce court-métrage avec Noé. Ça a été un coup de foudre artistique. Ce court-métrage était en sélection pour les Césars, donc on était ravis. C'était un très bon indicateur. Et puis c'était un peu une répétition de Slalom sur certaines choses. Et Jérémy, ça a été mon premier choix tout de suite. J'adore ce comédien. Pareil, il a quelque chose de très physique. Il a une physicalité vachement intéressante. C'est un comédien, voilà, il a fait Clo-Clo dernièrement, où il se transforme complètement. Après, il peut faire... Là, il a fait un film, Le Streaker, où il a perdu 18 kilos. Enfin, voilà, c'est quelqu'un qui vraiment se... qui est très très à l'aise dans les rôles de composition. Voilà, alors après, il a mis 6 mois à répondre, donc j'ai eu 6 mois où je cherchais désespérément à qui pouvait interpréter ce rôle, et c'est vrai que j'avais tellement, je pense, Jérémy en tête, et puis finalement, quand j'ai eu une première aide pour le film, L'Avance sur recette, je pense que là, l'agent de Jérémy a ressorti le scénario qui devait être sous la table, en lui disant, bah, tiens, regarde quand même, parce que L'Avance sur recette, c'est une aide très très sélective. Il a eu L'Avance sur recette, le scénario de Charlène, tu devrais le lire. Et donc il l'a lu et il m'a dit tout de suite, on y va, go. Mais voilà. Donc,
Et Noé, c'était une évidence vu que vous aviez déjà travaillé ensemble.
Noé, c'était une évidence. Alors ce qui est drôle, c'est que donc Odolgori, ça se passait au Pays Basque, un autre endroit où j'ai des attaches aussi. Et donc à la fin du tournage d'Odolgori, on fait une fête de fin de tournage et je lui dis, Noé, est-ce que... Écoute, il faut que je te propose le rôle de mon long métrage, ça serait génial, tu vas être super, ça se passe à la montagne, est-ce que tu as déjà skié ? Et là, elle me dit, oui, évidemment, quand j'étais petite, j'allais au ski et tout. Donc là, je vais voir mon producteur, je dis, mais c'est génial, plus elle skie et tout ça. Et puis arrivé 2 mois avant la prépa de slalom du long métrage, je lui dis, bon, bah, on va aller se mettre un peu sur les skis. Elle me dit, non, mais en fait, je t'ai menti, j'ai jamais skié de ma vie. Donc ça a été un peu le voilà. Mais voilà, ça montrait aussi à quel point elle avait envie de travailler avec moi et à quel point moi, j'avais envie de travailler avec elle. Enfin, il y avait quelque chose d'hyper naturel.
Et là, en quelques mots, comment ça se passe pour ces scènes? Parce que bon, on a vu le film. Comment se passent les scènes de ski? C'est une personne qui l'a doublée?
Ouais, elle est doublée sur les scènes de ski. Il y a plusieurs doubleuses d'ailleurs. C'est des scènes, voilà. Ouais. Mais après, elle a dû faire un travail énorme de composition parce que elle était jamais montée sur des skis. Et donc, il faut apprendre à tenir son matériel, à tenir sur des skis à l'arrivée, au départ d'une course, comment on met les bâtons dans le portillon, comment on observe la montagne, comment on se positionne dans des chaussures. Moi, j'ai fait de la compétition, je connais très bien ce milieu, c'était hors de question qu'on n'y croit pas, quoi. Donc, elle a fait 2 mois d'immersion avec une coach, Émilie Socha, qui est elle-même entraîneuse au ski études de Bourg-Saint-Maurice, qui l'a prise sous son aile avant le tournage et qui lui a fait, en fait, elle a fait exactement comme si elle était sportive de haut niveau. Donc, elle fartait son matériel, elle allait faire du ski de fond, parce qu'elle ne pouvait pas faire de ski, mais du ski de fond. Elle allait à la piscine, elle regardait des vidéos... Elle poussait de la fonte, elle faisait de la proprioception. Enfin voilà, elle s'est vraiment mise dans la peau d'une skieuse. Et donc voilà, c'est vrai que le résultat est bluffant. Enfin, il faut vraiment pointer du doigt ça. C'est-à-dire que c'est tout un travail qu'elle a fait de comédienne, de rentrer dans la peau et dans le corps de ce personnage.
On va revenir sur une scène du film, sans trop dire bien sûr pour les auditeurs. Cette relation entre les deux personnages qui est troublante, l'entraîneur qui profite de sa position. Quel était votre objectif dans ce film en racontant cette relation ?
Mais moi, j'avais très envie de parler de la relation d'emprise qu'il peut y avoir entre un entraîneur et les jeunes athlètes. D'ailleurs, ça peut être des filles ou des garçons. Hein. Dans les deux cas, c'est possible. J'avais aussi envie de parler du consentement, qui était déjà quelque chose dont j'avais parlé dans mon précédent court-métrage, Odolgori. Et puis, j'avais aussi envie de parler de résilience. Et je crois que le sport, ça aide à ça aussi, c'est-à-dire cet état combatif pour essayer de trouver une solution, de s'extirper d'une problématique et d'en sortir grandi. Mais voilà, il y avait plein de sujets qui me tenaient vraiment à cœur. Et puis moi, j'aime faire des films qui dénoncent, j'aime faire des films qui font réfléchir. Je pense que le cinéma, c'est une manière... une très belle manière d'ouvrir le débat, de questionner. C'est une très belle manière de, voilà, de parler avec, voilà, et ce film, il est fait pour ça, il est fait pour qu'à la fin de la séance, on se regarde, on se pose des questions, on se dise entre nous avec sa copine, son père, sa sœur, son frère, son ami. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as compris? Est-ce que moi, ça m'est déjà arrivé? Et je trouve que pour parler des sujets aussi complexes que l'abus sexuel dans le sport, l'emprise, le consentement, eh ben, il faut des alertes comme ça et des films pour ouvrir la parole.
Donc il y a une autre scène assez marquante, c'est quand Lise a ses règles et qu'en fait c'est son entraîneur qui lui explique qu'il n'y a pas de honte à avoir parce que sa mère est très absente dans le film. Donc pourquoi, comment vous avez eu l'idée de cette scène?
Oh, bah, c'est des scènes, moi ayant fait beaucoup de sport et en étant, voilà, on sait que justement les entraîneurs peuvent prendre le relais des parents, surtout que dans le film c'est le choix que j'ai fait, c'est-à-dire les parents sont absents. Donc voilà, souvent ils prennent le relais et puis il y a quand même dans le sport, il y a quand même une connaissance du corps, c'est-à-dire qu'on se sert du corps comme un outil, comme un objet pour en fait arriver à des fins, voilà, aux victoires. Donc en fait, il doit y avoir une certaine connaissance comme ça. Et puis dans cette scène-là, c'est vrai que l'entraîneur, finalement, il est à l'opposé de ce qu'on a déjà vu dans certains films qui traitent de sujets où il aurait pu être très cassant, lui dire « démerde-toi avec tes règles, c'est pas mon problème ». Non, j'avais envie à chaque fois justement d'aller dans le sens opposé de ce qu'on imagine et de montrer justement que c'est beaucoup plus complexe ces situations que ce qu'on imagine, parce que souvent les personnes se positionnent à un endroit inattendu. Et donc ça, c'est très important, parce que sinon, on ne peut pas vraiment non plus expliquer ce qui se passe dans ces relations d'emprise, parce que souvent, justement, les chemins sont complexes.
Vous l'avez dit, vous avez fait du ski, quelques compétitions. En quoi ce film reflète votre histoire personnelle?
Alors, disons qu'un film, c'est toujours, surtout un premier film, c'est tellement dur de faire un premier film qu'en général, on va chercher très profondément à l'intérieur de soi, pour essayer d'avoir quelque chose qui nous tient assez à cœur pour se battre aussi longtemps pour arriver à le mettre en scène. Voilà, donc après, il y a plein de choses personnelles, plein de choses personnelles, mais après, ce n'est pas mon histoire. Moi, je n'ai pas cette mère-là, mon père était présent, il n'y a pas de père, je n'ai pas vécu les choses exactement de cette manière, voilà. Mais c'est un mélange de plein de choses très intimes qu'on met dans un shaker au moment de l'écriture, qu'on secoue, et puis après, on rajoute tout ce qu'il faut aussi pour que ça devienne un film de fiction, c'est-à-dire de la dramaturgie, du romanesque, etc., pour que ça tienne la route. Mais ça, c'est une part de secret aussi, ce qui vient de l'intimité. Et voilà.
Charlène Favier, vous l'avez dit, donc c'est dur, un premier film. Mais on dit souvent aussi que le deuxième est difficile, puisque justement, quand on a beaucoup de succès avec un premier long métrage, on vous attend un peu pour la suite. Alors, est-ce que vous avez déjà des projets pour la suite?
Alors, pour l'instant, j'ai beaucoup de propositions aussi qui pleuvent un peu, c'est vrai, suite au premier succès critique de Slalom. Donc, je prends mon temps, j'ai pas du tout envie de me précipiter, surtout que... Voilà, je digère un peu aussi toute l'aventure de ce film, parce que ça a été très long, l'écriture, ça a été justement très intime, donc il a fallu digérer tout ça. Et puis là, il y a un espèce de succès comme ça qu'il faut quand même digérer pour pas faire de mauvais choix, pas s'emballer. Mais voilà, j'ai différents projets. J'aimerais énormément tourner à Marseille, l'endroit où je vis actuellement. Voilà, donc il y a beaucoup de choses, des adaptations souvent, des choses qui vont être un peu moins personnelles justement sur les prochains films, mais qui seront quand même rattachées à des choses très intimes, donc au final ça revient au même.
Bon, quand même un film très engagé,
qui
lance la réflexion.
Bien sûr.
Merci Charlène Favier. Je rappelle que vous êtes la réalisatrice du film Slalom. Le film sort le 4 novembre dans les salles. L'avant-première, c'est le 6 octobre à 19h au cinéma La Grenette à Bourg-en-Bresse. Vous y serez, Charlène Favier. Les places sont gratuites pour les adhérents du Cinémateur. Il faudra les retirer en caisse sous présentation de votre carte. Vous pouvez m'expliquer ce que vous faites ce matin?
Ce matin, entretien de vélo, changement de chaîne, nettoyage de transmission.
On va d'abord commencer par faire la vague. D'accord? Vous voyez là derrière au fond, loin, il y a une vague.
En reportage avec Radio B.
La 39e édition du Festival du film d'animation de Bourg-en-Bresse, c'est du 17 au 21 octobre.
Pour l'occasion, nous sommes allés dans les coulisses de l'association qui l'organise. Éric Poncet est bénévole et depuis la création du festival, il propose une immersion dans les trucages et les secrets de TV Cool, un film réalisé par des classes de l'école Charles Perrault et de l'école Saint-Exupéry de Bourg-en-Bresse et des classes d'Attigna.
Ce projet-là, qui avait pour thème évolution-révolution, alors c'est un thème un petit peu très vaste, en fait chaque classe a choisi un sujet particulier et chaque petit film est devenu en fait un reportage, et donc le film en lui-même c'est un journal télévisé dans lequel les quatre reportages sont mis bout à bout. Alors il y en a un sur le tri, il y en a un sur les fake news, il y en a un autre sur la naissance du cinéma, et il y en a un autre sur la violence des écrans. Voilà, ça c'est des enfants qui ont choisi ces sujets-là.
Pour terminer, un reportage qui raconte les débuts du cinéma.
À l'époque, il n'y avait pas de son. Le cinéma était muet et en noir et blanc. Les paroles et les commentaires étaient écrits sur un fond noir.
À partir de 1905, il y avait une petite pièce où des musiciens jouaient la musique en même temps que le film.
C'est une classe de CE2, CM1 qui, sur le thème évolution-révolution, a décidé de travailler sur la naissance du cinéma, fin du 19e, début du 20e siècle. Et c'était aussi une grande révolution. Et du coup, les gamins ont appris vraiment plein de choses et ont été très surpris en fait de découvrir comment les choses se sont passées.
C'était la salle Nickelodeon.
On a reproduit une salle Nickelodeon avec nos moyens. Nos modestes moyens.
On va regarder donc dans l'expo à l'ISRA, c'est ça ?
Oui, c'est ça.
On pourra voir le décor. Donc dites-nous un peu ce qu'on peut voir sur cette scène.
Alors, dans cette scène, on va d'abord avoir les spectateurs. Alors, les spectateurs ont été faits d'une façon très particulière. On a pris tous les élèves de la classe en photo. Ils ont découpé la chevelure, le buste, les yeux, les sourcils, le nez, la bouche. On a tout mélangé et on a recréé des personnages totalement différents, avec des éléments qui appartiennent à chacun des élèves. Ces spectateurs sont en train donc de voir un film qui est donc projeté sur l'écran, en noir et blanc bien sûr à l'époque, et sur scène, devant l'écran, il y a un pianiste qui accompagne donc le film avec la musique. C'est donc ce qu'on appelle la salle Nickelodeon. Alors le pianiste, bah, évidemment, on le voit bouger. Hein, il bouge les mains pour, comme s'il appuyait sur les touches du piano. Là, encore une fois, c'est quelque chose qui est peut-être un petit peu étrange au départ, mais qui n'est pas très compliqué à tourner. On fera un exercice aussi là-dessus pendant l'atelier du festival. Il suffit bien sûr de déplacer les bras du personnage. Alors, le personnage est en pâte à modeler. Ses bras sont faits avec du fil électrique ou du fil de fer. Et à partir de là, on tourne quelques plans en déplaçant la caméra, en ayant des plans différents. Et ensuite, avec 4 ou 5 plans, on peut facilement faire 30 secondes de film où on voit le personnage bouger et donc jouer la musique. Évidemment, on ne cherche pas non plus à être forcément sur le rythme de la musique, ce qui demanderait beaucoup plus de complications. Voilà.
Et donc, il y avait aussi le train qu'on voit qui bougeait un peu dans...
Alors là, encore une fois, dans cette séquence-là, en fait, quand on a tourné, c'était un fond vert, parce que derrière, on va faire de l'incrustation.
Pourquoi vert ?
Alors, c'est des couleurs qui permettent de faire une transparence. Au montage, on peut du coup faire comme si c'était un papier transparent. En fait, on a tourné sans que les images soient projetées, en fait. Et puis c'est ensuite au montage que j'ai repris d'autres images qu'on avait déjà tournées et que je les ai calées sur la partie verte du plan. Alors, ce qui est important, c'est donc pour ça qu'il faut que dans le reste du décor, il n'y a rien de vert. Parce que tout ce qui sera vert va devenir transparent. Il faut le savoir avant de le faire. Donc je leur avais interdit le vert. Alors bien sûr, au début, ils se posent la question pourquoi. Après, ils comprennent forcément pourquoi j'avais demandé cette chose-là, quoi.
Les frères Lumière filmaient la réalité alors que Georges Méliès a fait des films de fiction. C'est le début des effets spéciaux, comme les maquettes, les costumes, l'incrustation et d'autres techniques. Un de ses films les plus connus est Le voyage dans la Lune.
La séquence très célèbre où on voit la Lune qui s'inquiète un peu parce que la fusée va lui rentrer dans l'œil. Alors cette séquence-là, ben, c'est sans doute une des plus complexes à tourner parce que elle demande beaucoup de précision. Alors déjà une chose importante, ben, quand on va voir le décor, il est placé verticalement. Tandis que nous, quand on a tourné, il était placé horizontalement. Autrement, ça n'aurait pas été possible. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on a l'impression qu'il n'y a qu'une seule fusée quand on la voit arriver dans l'œil de la Lune, alors qu'en fait, nous, on a fabriqué plusieurs fusées. Hein, puisqu'il fallait la fusée entière, mais aussi il fallait une fusée qui soit incrustée dans l'œil, donc qui est coupée. La Lune, elle est en pâte à sel, parce qu'il fallait bien qu'on puisse enfoncer cette fusée, hein, et puis qu'on donne des expressions à la Lune, donc à ce moment-là, la pâte à sel n'était pas sèche, et donc on pouvait la modeler comme bon nous semblait. Et après, ben, le truc, c'est que... on voit pas à l'écran, mais il y a quelqu'un qui tient une gamin qui tient un petit peu la fusée, qui passe devant la caméra avec sa main. On voit pas la main, forcément. Et donc on prend. Alors là, on a fait très vite. Hein. En fait, on a pris trois images. La fusée pratiquement qui arrive devant la caméra, une où elle est plein centre et poum, une fois qu'elle est incrustée dans l'œil, parce que de toute façon, elle arrive très vite. Et donc voilà, ça donne cet effet-là à l'écran.
Je vais être le premier enfant à aller sur la Lune.
Voilà, une séquence qui fait une seconde, elle peut demander plus de temps qu'une séquence qui va faire 10 secondes à un autre moment, suivant ce qu'on anime. Hein. Ce qui est aussi difficile, c'est quand on a beaucoup de personnages à animer à la fois. Alors, les gens qui verront le film se poseront la question, ils verront souvent qu'il n'y a pas forcément beaucoup de personnages qui bougent en même temps. Mais ça, il faut réfléchir aux conditions dans lesquelles on fait les choses et que du coup, bah, forcément, si on avait 10 personnages à bouger à la fois, à un moment donné, on en oublierait un petit peu. Hein. Mais on a quand même des séquences où il y a plusieurs personnages à faire bouger en même temps. Ce film est très symbolique en fait de ce qu'est la réalisation d'un film avec des enfants parce que c'est un travail de coopération, hein, c'est un travail d'équipe. Je connais rarement du monde qui fait son film tout seul dans son coin, alors que quand on se met en équipe, et ben justement ça permet d'être beaucoup plus efficace et que chacun puisse apporter la pierre à l'édifice et pour qu'on ait une réalisation qui soit intéressante. Alors au-delà du film d'ailleurs, quand on travaille avec des enfants, c'est vraiment cet esprit d'équipe, cet esprit de coopération qui est important. Voilà, pédagogiquement, c'est ce qui nous intéresse aussi. Ce qui est important aussi, c'est que les enfants, ben, en gardent un souvenir, les chez eux, et donc le revoient des années plus tard. Alors, moi, je sais que je croise encore des grandes personnes dans la rue qui me parlent de Rikiki la chenille, qui est un film de 1990. Moi, je les reconnais pas, mais eux me reconnaissent. Bon, enfin, voilà, quoi. Donc, bon, c'est une expérience qui, a priori, marque les enfants et en même temps qui, alors, si on parle du domaine scolaire, pédagogiquement, est très intéressant et recouvre l'ensemble du programme scolaire, ce que les enseignants ont bien compris, parce qu'on est très souvent sollicité pour faire ce genre de projet.
Ainsi se termine ce journal. Au revoir.
Venez découvrir TV Cool, le film réalisé par des classes de maternelle et de primaire de Bourg et à Tignat. C'est salle Vietti derrière le théâtre le mardi 20 octobre et le mercredi 21 octobre. Gratuit et sur inscription à festivalbourg@gmail.com.
Le Festival du film d'animation, c'est du 17 au 21 octobre à Bourg-en-Bresse. Pensez bien à prendre vos billets. Toute la programmation sur festivalbourg.com.
À vous les Burgiens, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci pour votre écoute.
Belle semaine sur nos ondes.
Quand on voit que les gens galèrent avec les salaires qu'on a, qu'est-ce que ça va être qu'on va être à la retraite?
Ce qu'on déplore depuis des années, c'est le manque d'effectifs.
Je les suis, les filles, je trouve extraordinaire ce qu'elles font.
Ça fait comme si on envoyait des tas de petites bulles de musique un peu partout dans les cellules.
Une salle pour juste où on se pose l'hiver, au chaud.
Il faut des endroits et des structures adaptées pour récupérer les abîmés de la vie qu'on est.
À vous, les Burgiens.
Inès Lombarté, Audrey Radondi.